Bonjour, c'est Cyril Riva, traduisant le podcast de Van Karach, rédacteur en chef d'anesthésiologie, qui vient mettre en avant les recherches publiées dans le numéro de décembre 2022 de la revue. Le numéro de ce mois-ci comprend des recherches sur un nouveau modèle de stratification du risque pour prédire les événements indésirables, un nouvel algorithme pour évaluer le positionnement des tubes endotrachéaux et les effets de la sédation sur la récupération neurologique lors d'un arrêt cardiaque. L'article de synthèse de ce mois-ci présente un aperçu de la manière dont les anesthésistes permettent d'identifier les patients présentant un risque accru de dépression respiratoire. Notre première étude explore la stratification des risques et sa capacité à prédire les événements indésirables. Les modèles de stratification des risques sont utilisés pour effectuer des comparaisons entre les groupes de traitement dans la recherche observationnelle pour l'appariement par propension et pour prédire les résultats dans les populations à haut risque. Les précédents modèles de stratification des risques étaient basés sur les codes CIM-9 et se limitaient aux admissions en chirurgie plutôt qu'en médecine. Le Dr Scott Grimwald du Health Data Analytics Institute et ses co-auteurs de la Cleveland Clinic ont utilisé la régression logistique pour développer et valider un large ensemble d'outils prédictifs basés sur les codes CIM-10 plus largement utilisés. Les critères d'évaluation comprenaient les admissions hospitalières non planifiées, le statut de sortie, la durée du séjour, la mortalité à l'hôpital et à 90 jours, ainsi qu'un ensemble de complications. L'analyse de validation était basée sur plus de 9 millions d'admissions hospitalières d'adultes en 2019. Les patients étaient inscrits dans le programme américain de rémunération à l'acte et Medicare-Medicaid. Le modèle des auteurs prédit bien les résultats dans une population hors échantillon, fournissant des conseils cliniquement significatifs aux cliniciens. En outre, cet article est accompagné d'un éditorial « Prediction Algorithms, is peer review enough ?» écrit par le Dr Larry Glantz qui explore plus largement l'application clinique des algorithmes de prédiction. En plus de lire l'article et de l'éditorial, vous pouvez écouter le podcast de l'auteur vedette pour approfondir les résultats décrits dans l'article avec l'auteur de l'étude et l'éditorialiste. Ensuite, nous passons à une étude qui explore l'utilisation des radiographies pulmonaires pour évaluer le positionnement du tube endotrachéal. Un mauvais positionnement du tube endotrachéal peut être potentiellement dangereux et entraîner des fuites d'air ou des lésions des cordes vocales. Les chercheurs dirigés par le Dr Chao Hanlei de l'Université nationale Chung Kung à Taïwan ont émis l'hypothèse que l'utilisation d'une radiographie pulmonaire portable avec analyse automatisée pourrait permettre de mieux identifier les emplacements précis de l'extrémité endotrachéale et de la carène. Ils ont développé un algorithme pour identifier les positions sous-optimales des tubes endotrachéaux, réduisant ainsi les complications associées et améliorant le flux de travail de l'unité de soins intensifs. L'algorithme a donné de meilleurs résultats que certains cliniciens. En utilisant leur algorithme, la détection du tube endotrachéal et de la carène était précise à moins de 10 mm d'erreur dans environ 90% des images et à moins de 15 mm dans environ 95% des images. Leur étude démontre que leur algorithme est comparable, voire supérieur, à celui des cliniciens de première ligne pour la détection de l'extrémité endotrachéale et de la carène. Dans un éditorial d'accompagnement, le Dr James Blum affirme que l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle tels que celui-ci transformera la pratique des soins intensifs de la même manière que l'ECG automatisé a transformé les soins cardiaques aigus. Des évaluations par le prestataire de soins intensifs et un radiologue sont nécessaires pour garantir le plus haut niveau de soins et l'algorithme doit encore faire l'objet d'une validation externe. Pour en savoir plus, écoutez l'auteur de l'étude et l'éditorialiste dans leur podcast. Notre prochaine étude porte sur l'arrêt cardiaque. Malgré les progrès des méthodes de réanimation, l'arrêt cardiaque est toujours associé à une mortalité élevée. Les lésions cérébrales post-anoxiques restent élevées chez les survivants d'un arrêt cardiaque. Une gestion ciblée de la température est souvent utilisée chez les patients suivant des soins post-réanimation afin de minimiser les lésions cérébrales. Des chercheurs dirigés par Takamitsu Ikeda du Massachusetts General Hospital et d'autres chercheurs ont testé l'hypothèse selon laquelle la sédation améliorerait la survie et les résultats neurologiques chez les souris après un arrêt cardiaque. Ils ont soumis des souris à un arrêt cardiaque induit par du chlorure de potassium et à une réanimation cardio-pulmonaire. Au moment du retour de la circulation, ou 60 minutes plus tard, les souris ont reçu une perfusion intraveineuse de propofol, de dexmedetomidine ou de solution saline pendant 2 heures. La température corporelle des souris a été abaissée à 33 degrés Celsius. Les résultats montrent que l'administration précoce d'une sédation avec du propofol ou de la dexmedetomidine a amélioré la survie et les résultats neurologiques des souris traitées par hypothermie. Cette étude peut orienter les recherches futures sur les effets de la sédation sur la récupération neurologique chez les patients victimes d'un arrêt cardiaque. Nous passons maintenant à une étude concernant les produits pharmaceutiques et la cardiotoxicité inattendue. Les modèles animaux permettant de prédire l'activité des médicaments sur le cœur font défaut. Des auteurs dirigés par Julia Plakotnik de l'Hôpital pour enfants malades de Toronto au Canada ont testé l'hypothèse selon laquelle des anesthésiques plus cardiotoxiques comme la bupivacaïne perturbent les fonctions des cardiomyocytes. La modulation du calcium est fondamentale pour la contractilité des cardiomyocytes et le rythme des battements. Les auteurs ont étudié les effets de concentration cliniquement pertinentes de bupivacaïne racémique, de lévobupivacaïne ou de ropivacaïne sur des tissus de cardiomyocytes dérivés de cellules souches humaines. La bupivacaïne a eu un effet délétère plus important sur la dynamique du calcium comparé à la ropivacaïne. La supplémentation en calcium a amélioré la fonction tissulaire et rétabli le rythme normal des battements et a aussi réduit les arythmies provoquées par la bupivacaïne, mais pas par la ropivacaïne. Cette recherche fournit un modèle pour comprendre la cardiotoxicité démontrée par les anesthésiques locaux et d'autres médicaments. Enfin, l'article de synthèse de ce mois-ci porte sur l'insuffisance respiratoire post-opératoire. Dans de nombreux cas, l'insuffisance respiratoire se développe de façon aiguë et sans avertissement. Les auteurs, Toby Weingarten et Gerard Sprung de la Mayo Clinic, passent en revue les directives cliniques existantes qui se concentrent principalement sur la gestion périopératoire des patients souffrant d'apnée obstructive du sommeil. Ils exposent en détail les nouvelles perspectives destinées à aider les anesthésistes à identifier les patients présentant un risque accru de dépression respiratoire afin que les prestataires puissent intervenir efficacement. Ces développements permettent de mieux comprendre la dépression respiratoire précoce dans l'unité de soins post-anesthésiques. C'est tout pour l'aperçu de ce mois-ci. Passons aux nouvelles du journal. Anesthésiologie a lancé un centre de ressources pour les auteurs, leur permettant d'en savoir plus sur le processus de soumission, la publication d'études scientifiques et des possibilités de promotion et de multimédia pour vos recherches. Pour en savoir plus et découvrir les autres nouveautés, rendez-vous sur anesthésiologie.org. Merci de nous avoir écoutés et de terminer l'année avec anesthésiologie. Rejoignez Evan Karach le mois prochain pour découvrir les points forts du numéro de janvier 2023.